sur les soirées et sur des détails dans ces soirées. Par exemple, on me demandait sur ce petit bouquin là qui est introuvable à l'heure actuelle par ici, bouquin d'Ivan Illich, donc texte de 1971 très prémonitoire, eh bien que je vais envoyer à ceux qui ont mis un jour leur nom sur cette liste, je vais envoyer à tout le monde donc effectivement les liens qui permettent par internet de retrouver ce petit bouquin. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres informations qui peuvent passer par ce biais là si vous avez donné votre nom. Vous ne serez pas importuné, on a essayé de prendre des précautions, par des vendeurs de véranda ou de capteurs solaires. Donc du coup on espère donc ne pas faire de bévue là-dessus. Les envois aux personnes sont de toute façon toujours cachés, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais l'adresse de quelqu'un d'autre qui s'était inscrit sur la liste. Voilà. Donc on a pris certaines précautions. Donc tout à l'heure vous aurez la possibilité de vous inscrire sur cette liste pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous signale qu'il y a les enregistrements de toutes les soirées, ou presque, il y en a peut-être une ou deux qui sont passées au travers. Ces enregistrements qui sont disponibles aussi sur le site, pas sur le site, mais sur la boîte mail que nous avons des jeudis en question. Donc là aussi, on vous donnera les informations pour que vous puissiez aller retrouver ces enregistrements. Il y en a une trentaine à l'heure actuelle. Et ouais, ça, c'est ça, entre 25 et 30, alors que nous en sommes ce soir à la numéro 33. Voilà. Et un autre donc petit détail, c'est un chapeau. Alors il est évident qu'on ne vit pas que de l'air du temps par rapport à nos conférenciers, mais ce n'est pas cela qui nous coûte bien cher ce soir, parce qu'il n'y a pas de déplacement.
Attends, on n'a pas tout dit.
Ils n'ont pas tout dit.
Il fallait discuter avant. Juste... Ouais.
C'est trop tard.
Tu as dit qu'il avait pris sa voiture depuis Espagne.
Ah oui, oui, ça c'est vrai. J'avais oublié le détail. Bon. Et donc du coup, il y a quelques petits frais. Et donc si vous voulez bien penser au chapeau tout à l'heure, ça sera avec plaisir que nous compterons nos picaillons. Voilà.
Et alors, son chapeau est percé, mon béret ne l'est pas.
Bon, il était percé effectivement, mais j'ai mis une doublure.
C'est bizarre, parce que la dernière fois il était plein, il est à nouveau vide.
Ah, oui, effectivement.
On est très dépensiers.
Mais entre autres, par exemple, le prochain jeudi, on fait venir un film, et ce film nous coûte 120 euros. Bon, voilà. Et encore, on a négocié le prix parce qu'on a échappé à 180 euros. Donc voilà, mais il nous coûte 120 euros. Alors c'est vrai que la soirée de ce soir sera peut-être entre guillemets bénéficiaire, mais il y a d'autres soirées qui sont dans le rouge. Voilà, donc en moyenne, bon, on ne va pas pleurer parce que ça va, on est content, on continue, c'est donc tout va très bien. Voilà, donc je laisse la parole à l'assistance qui avait des questions en souffrance.
Voilà.
Oui. Alors, ma première question, c'est quand est-ce qu'on vend tout parce qu'il commence à faire en soirée.
Pardon, j'ai pas compris.
Non, plus sérieusement, c'est plus des remarques, mais pour répondre un petit peu à les observations que j'ai pu entendre. Sur le. Effectivement, moi, je reste un peu mitigé dans le sens où, quand on dit que le collectif est forcément mieux en matière d'électricité, comme il y a beaucoup de pertes par le transport, par les boules, etc., au niveau de la perte, c'est lié tout simplement à la loi des croix de Foucault et compagnie. Dans les détails. Quand on produit local, quand le reconsomme sur place, c'est là où on est le plus rentable. Après, c'est pour abonder aussi dans l'intérêt du collectif, c'est qu'aujourd'hui, le problème de l'énergie, c'est le stockage par rapport à l'électricité en l'énergie. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut faire cohabiter les deux le plus intelligemment possible entre des petites ordures sur oui, mais à condition qu'on n'aille pas. Des montagnes entières pour faire des billes au lithium pour rester autonome alors que nos voisins ont préfilé ce qu'on a chez nous à un surplus parce que lui va faire arriver à 6h30 le soir. Ouais. Voilà, donc juste pour ça, après par rapport à ce que je qualifiais de les caricatures des élus, étant élu, voilà, j'ai été amené à faire des propositions pour arrêter les volumineux la nuit après minuit, au moins une sur deux, etc. Et en fait, là où on se retrouve super acheté, parce que derrière, il y a des lobbies incroyablement bien aidés par les diapositives, il faut que le prix du kilowatt pour les virages est facturé moins cher. Donc, bien sûr, c'est pas du tout aussi simple et si ça dit. Et après, il y a d'autres choses aussi qui font que les droits qui sont faits aujourd'hui, si on crée un poids lumineux, qu'on le supprime, et s'il y a un accident, en fait, c'est les élus qui portent le chapeau. Et puis celui-là, il n'y a pas bien de pièces. Hein. Donc, c'est pas si simple que ça.
Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Ça. J'avais entendu le contraire. C'est quelque chose, c'est un bruit qui court, mais je me demande si c'est bien.
Et non, mais on a fouillé un peu. Hein. Ouais, parce qu'il y a déjà eu des attaques sur des gens morflés, des élus morflés. Ouais. Et ouais, alors c'est vrai que dans les années passées, il y a 30 ans de ça, le maire était content parce qu'il montrait l'église et l'avenue et le machin. Sauf qu'aujourd'hui, pour revenir et refaire un pas en arrière, c'est assez compliqué. Un abaisseur de tension en fait, qui permet au sel des ampoules à l'économie d'énergie, qui déjà va être, on va dire, une première mesure pour essayer d'économiser quelque chose. On a fait un chiffrage sur la petite commune de Logal, il faut 18 ans pour l'amortir. Et en croisant les doigts, qu'il ne fasse pas un orage, que ça ne pète pas l'équipement électronique. Voilà. Donc c'est pour ça, pour dire, les élus, il y a quand même des élus qui se posent les bonnes questions. Ouais, voilà.
Alors, bravo.
D'abord, merci d'être élu. Parce que d'abord, je trouve que c'est quand même accepter d'être élu dans les petites communes, là. Quand on voit le boulot, quand on voit le boulot que c'est, les responsabilités que c'est, chapeau, et heureusement qu'il y a des élus. Ce qu'on voulait dire par rapport aux élus, c'est que, là en l'occurrence, c'était peut-être un peu caricatural, mais c'était sur un cas précis. Le covoiturage, organiser un covoiturage, c'est quand même, là sur le coup, c'était quand même pas compliqué. Bon. Après, on s'aperçut, d'ailleurs ça c'est... J'en profite. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais travaillé sur les pratiques, les bonnes pratiques en Aveyron. On s'aperçoit que les petites communes, avec des élus qui sont actifs dans la petite commune, font plein de choses, alors que dans des grosses communes où il faut un gros machin, etc., c'est plus difficile. Les villes moyennes, n'en parlons pas, quoi. Mais on s'aperçoit qu'il y a des petites communes où le maire est dynamique, il va faire quelque chose. Il y a des choses vraiment qui se mettent en place dans l'Aveyron. Et alors après, bon, le séquestre, c'est pas une petite commune, mais je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir le maire du séquestre à la soirée qu'on avait organisée sur l'eau. Alors là, on dit, bon, ok, rien à dire. Voilà, il a réfléchi sur la tarification de l'eau. Alors, juste une aparté, mais on pourrait avoir l'eau et l'énergie, ça pourrait être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut assurer... qu'il n'y ait pas de précarité énergétique, c'est-à-dire que toute la population ait accès à un minimum d'énergie qui lui permette de vivre. Mais après, alors là, c'est après où il faut changer. Et avec l'eau, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a 25 mètres cubes, je ne sais plus combien, mais enfin bon, c'est 25 mètres cubes gratuits. Et après, c'est il y a des tranches, et celui qui arrive à la dernière tranche, il paye 5 ou 10 fois plus cher le mètre cube. C'est-à-dire que si il gâche, eh ben, il paye. Et en même temps, les petits revenus ont toujours accès à de l'eau et à l'électricité. Ça, c'est des principes qui sont super. Et c'est un élu. Hein. Donc, on est bien d'accord. Tout à l'heure, si vous avez pu penser ça, je m'excuse.
Ah non, en fait, c'est ça.
Par rapport aux non, élus, j'ai.
Au contraire, moi, j'abonde de compétences dans le sens d'une heure de covoiturage. J'ai mis un petit site internet de covoiturage sur ma commune dès que j'ai été élu. Ça. Pas bien pris la mayonnaise. Après, il y a eu le site Aveyronais, donc déjà, on continue, j'ai refermé mon site, on s'est redirigé vers ça. Donc, moi, j'entends complètement que c'est pas normal que le mairie d'Aveyron ne trouve pas au moins un parking pour faire du covoiturage. J'abonde complètement. Hein. Donc, c'est juste pour revenir. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu un peu une caricature des élus, c'est pour ça que je voulais plus aussi réagir. Mais ça se passe, il n'y a pas de polémique non plus. Hein,
oui. Oui, alors, je voudrais dire également. C'est que les lois actuelles font que les maires sont de plus en plus n'ont plus tellement de liberté d'action. Leur liberté d'action rétrécit de plus en plus,
et pas leur responsabilité.
Et
pas leur responsabilité, voilà. C'est ça qui est dramatique. Voilà.
Du coup, on arrive à une certaine dictature, parce que le maire vient tout seul à poirier. Mais ça continue à ce sens-là. Il n'y a plus aucune initiative, il ne va rien faire. Ça ne rien eu, je crois.
Donc après il y avait
madame là.
Ce qui m'a pas plu, c'était cette bashing des élus tout à l'heure, parce que en fait, qu'est-ce que l'alternative de quelqu'un qui se fait élire pour faire le boulot? Tu veux un roi qui le fait à ta place? Ça me plaît pas. Même si on ne peut pas être toujours content avec ce qu'ils font les politiques, ils sont comme eux qui font le sale boulot. D'accord. Et après, c'est ce que, moi je viens d'Allemagne, et en Allemagne, une ville comme un tout petit village, comme Kista, aurait un bus qui va à Rodez. Et j'habite près de Kista depuis 4 ans, et je dois faire du covoiturage parce qu'il n'y a pas de bus. Et c'est quelque chose que je me compte. Ça m'échappe total.
Alors,
en Allemagne, il y aura un bus, même si le bus est vide, il y aura un ou deux ou trois dans la journée. Il y en a zéro. Par contre, il y a deux bus qui partent de Rekista à Albi le matin, qui reviennent deux bus le soir. Miracle, miracle. Là, ça va parce que le conseil général du Tarn subventionne le bus, que le trajet coûte que 2 euros. Ça, tu ne peux pas faire en voiture. Par contre, le conseil général du Rodez, de l'Aveyron, refuse de subventionner un bus qui va de Rekista à Rodez. Voilà. Parce que, tu sais, mobilité douce, c'est très gentil, mais comme moi je viens en vélo, 57 km le matin, 57
km
le soir.
Le transport collectif, c'est déjà une mobilité douce.
Même pas en chemin, je peux pas le faire.
Oui, juste, j'ai vu cet été un autre exemple, subventionné par le conseil général et la mairie, un transport depuis Castelnau-Magnoac jusqu'à Toulouse, c'est-à-dire la capitale régionale. Alors que Castelnau-Magnoac, c'est dans les Hautes-Pyrénées, c'est un petit village, mais il y a deux bus dans la journée qui font l'aller-retour, un le matin et un l'après-midi. Bon, donc ça se fait aussi, mais à condition qu'il y ait effectivement quelques subventions. Et à ce moment-là, ça évite et ça permet à des gens qui n'ont pas de voiture dans ces communes un petit peu écartées de pouvoir bénéficier de transport alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes de voiture. Donc, voilà.
Même si j'ai une voiture, j'aimerais bien prendre le bus.
Tout
je
à fait.
Je peux faire d'autres choses que conduire.
Mais que ça existe, c'est ça que tu veux dire, que ça existe au moins. Voilà.
Alors, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Bon, ma vie précédente, j'étais dans l'industrie. Et un jour, je discutais à Montbéliard, dans les constructions automobiles, donc, où il y avait Acropole industriel et tout. En fait, ils étaient en train de supprimer l'écart de transport, parce qu'avant, dans l'industrie, toutes les usines avaient le transport des ouvriers qui se faisait, moi j'ai connu dans les années 70-80, au début où je travaillais, il y avait des cars qui prenaient tous les gens dans les campagnes qui les ramenaient. Et le type il dit, mais tu comprends, nous on va arrêter les cars. Alors, je lui dis, ah bon, pourquoi? Il dit, mais on n'a personne qui les prend. C'est-à-dire que les élus, ils ont peut-être une responsabilité, mais les citoyens, ils ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont un car qui est gratuit, qui était organisé par l'usine dans laquelle ils travaillaient, ils ne voulaient pas, ils refusaient de la prendre. Après, par rapport au transport, il y a autre chose aussi, c'est qu'actuellement, on voit la mise en place de lotissements dans des zones qui sont extrêmement éloignées des centres urbains, parce que le prix du terrain n'est pas cher, donc c'est les personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens qui vont acheter des lotissements, qui vont mettre des maisons dessus, et qui ne voient pas forcément le coût qui va leur arriver dans pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec des maisons quasiment invendables, des coûts de transport qui vont être énormes. Et en fait, on est en train de mettre toute une population à l'écart, dans des endroits où ils ne pourront plus rien faire. Et je pense que là, à part les élus, vendre un lotissement à quelqu'un qui ne travaille pas dans les 10 ou 20 kilomètres, c'est quasiment à terme criminel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va devoir vendre sa baraque à Pineus dans 20 ans. Parce que, autre chose, je rebondis, excusez-moi, je monopolise peut-être un peu la parole. On voit bien que les solutions qu'on propose, bon, c'est quand même pas très glamour. Ça, on se dit pas, tiens, c'est un truc, ça va marcher, c'est sur l'enfer. On voit bien qu'on est quand même sur des solutions qui sont assez limites. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative. C'est que de toute façon, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus d'uranium. Donc de toute façon, il faut penser à autre chose.
Oui, pareil, je reprends ce que tu dis là. On sait qu'au maximum, entre le gaz, l'uranium et le pétrole, qui représentent 90% de notre consommation d'énergie, puisque le reste, c'est un petit peu de renouvelable qui vient de renouvelable essentiellement. On sait que dans 70 ans, on n'aura plus ni pétrole, ni uranium, ni gaz. Donc c'est vrai qu'il faut, bien... Soit on dit, voilà, après nous déluge, après tout, nos descendants ils démerderont, nous on consomme tout. Ou alors, on se pose en personne ayant une dignité et ayant envie de léguer à nos descendants quelque chose qui puisse fonctionner encore, un milieu où ils puissent se vivre et être heureux. Et à ce moment-là, on est obligé de s'interroger, quoi. C'est pas possible, on peut pas faire comme les trois singes là, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, et laisser faire.
Oui, mais dans l'alternative, tu as la proposition du gaz de schiste, ils en trouvent partout maintenant, ils vont aller chercher à 7000 mètres de profondeur et tout faire péter, mais non.
Et on va copier ça en disant que c'est le miracle économique des États-Unis à l'heure actuelle, le réemploi important qu'il y a eu pendant les 5 ans d'Obama, c'est dû. La plus belle.
D'ailleurs, le rapport que tout le monde attend, à mon avis, ça va être. L'angoisse, ça va être terrible. Sur les gaz de schiste, le nucléaire et tout, ça va être certainement.
Oui, je reviens sur l'aspect collectif. L'aspect collectif, à mon avis, du problème de l'énergie, c'est que nous, en tant que citoyens, on doit pousser au cul nos élus, parce qu'en fin de compte, l'élu, il va réagir que si la population, s'il entend qu'il y a des préoccupations de la population. Et s'il y a un groupe de parents d'élèves qui va voir le maire d'un petit village qui lui dit nous, on voudrait isoler l'école demain, c'est quand même pas la mère à voir d'isoler une école. Et là, l'élu, il sera sensible à la demande et ce sera peut-être plus réalisable, quoi. Donc, jouer collectif, ça veut dire qu'il faut qu'on se regroupe et qu'on fasse pression sur nos élus pour qu'ils fassent. Il faut commencer, à mon avis, par des choses simples, pas aller trop loin dans les projets, mais faire des projets tout simples, des tout bêtes, isoler l'école, mettre une chaudière à bois. Il y en a une à Prune, là, ça a l'air d'être assez simple. C'est des installations qui sont subventionnées, en plus, ils peuvent trouver des financements et ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça techniquement à mettre en place. Et sur l'aspect collectif aussi, moi ce que je pense que les maires devraient faire, en tout cas ceux qui sont engagés sur ces idées-là, c'est qu'ils devraient désobéir et produire leur énergie localement sans la rendre à EDF et commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire comme production locale pour le village, pour les villages alentours et contester le fait de revendre à EDF puisque cette EDF ça, moi,
Bravo, je suis d'accord.
Ça me plairait qu'on ait des maires désobéissants qui commencent à se manifester, parce que ça commence toujours comme ça, le progrès. C'est des désobéissants qui refusent de revendre à EDF. Le problème, c'est que souvent, ils ne veulent pas faire, parce qu'ils disent, de toute façon, il faudra qu'on revende à EDF qui va nous redistribuer derrière. Donc, c'est vrai que c'est gênant.
Quand on parle d'EDF, c'est le réseau, sa structure, bon... Sur la question, je trouve qu'une commune se pose la question de produire de l'énergie sur sa commune, et d'être, on va dire, à énergie positive. Là, je souscris totalement. Maintenant, se passer d'EDF, alors qu'il y a le réseau qui existe, EDF, c'est jamais qu'une enveloppe, c'est jamais que RDF, le réseau, c'est à nous, en fait. C'est lui qui le gère, mais c'est notre réseau. vois pas trop l'intérêt de pas servir de réseau et de recréer du réseau alors qu'il y en a un qui existe.
Non, le squatter, le prendre, l'occuper, il y a une ville, c'est Saint-Dizier, je crois.
Montdidier. Alors en Picardie qui produit. Alors ça c'est un exemple intéressant, mais ça sur l'éolien. Donc en fait ils ont fait une régie communale et ils produisent leur électricité. Alors le gros intérêt
de quelle façon
sont autonomes.
Ils la produisent par
comment?
Ils la produisent comment?
Éolien. Par éolien. Ils ont installé 4 grosses éoliennes, je crois. Ils ont installé 4 grosses éoliennes qui fournissent l'électricité à la commune. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme c'est la commune qui a la régie, comme la régie pour l'eau, quoi, ils ont la régie pour l'énergie. Et le gros intérêt, c'est que un tiers du tarif de l'électricité vendue va à l'isolation des bâtiments. Un tiers va aux économies des habitants, c'est-à-dire à la sensibilisation à l'économie des habitants, et un tiers qui est gardé pour la commune. On voit que quand c'est pas pour faire de l'argent, on a une politique qui est vraiment une politique sociale, énergétique, qui est mise en place. À savoir que c'est une dame qui est maire de Montdidier. Non mais je le dis. Quand on le dit pas, on est rien, mais vous dites pas que c'est des lames. Quand on dit que c'est une lame, ouais, bah bien sûr, mais c'est normal. Je suis entièrement d'accord, c'est normal. Ceci dit, je le dis.
Mais quant au fractionnement de la production d'énergie sur tout le territoire, je crois qu'il faut se garder d'un truc. On a des raisonnements, nous, de ruraux. On habite à la campagne. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le quart de la population française, au moins, vit dans la région parisienne. Que la surface allouée à chaque personne, à un groupe de personnes, n'est pas, rend inenvisageable l'installation d'une éolienne place de la Concorde, par exemple.
Il y a un peu d'espace autour, c'est encore peut-être là que ce serait le mieux.
La majeure partie de la population française vit en ville.
Ceci dit, il y a un potentiel de surface à utiliser pour le photovoltaïque qui est énorme, quoi. Il y a tous les toits d'industrie, de supermarché, du tertiaire et même de l'habitat individuel, quoi. Si on recouvre tout ça de photovoltaïque, je veux dire, on va produire de l'électricité et même en ville, quoi.
À noter, par exemple, que, alors, à vérifier, je vous donne une information, mais elle est à vérifier parce qu'on me l'a donnée à la dernière soirée qu'on a fait à la semaine de la science. C'est apparemment en Hollande, les permis de construire ne sont donnés que s'il y a un toit qui est orienté au sud. C'est à 30% de la toiture orientée au sud. Donc ça veut dire qu'ils prévoient
une capacité de récupération d'énergie.
Donc plus que les rendements du photovoltaïque augmentent. J'ai entendu parler à un laboratoire de cellules photoélectriques photovoltaïques qui dépassaient les 45%.
Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu
en
30 ans.
En labo, hein, pour le moment.
On a perdu 30 ans, on aurait travaillé là-dessus il y a 30 ans, on serait à des rendements qui sont bien meilleurs que ceux qui sont maintenant. C'est ça le problème. Et si on ne change rien, on va encore perdre 30 ans. Quoi. Parce que le problème, c'est qu'on est là, on se dit... On s'imagine pas comment ça va se terminer. Ça va pas être la semaine, le vendredi.
Au fait, la semaine prochaine, il n'y a plus de pétrole. Et donc maintenant, vous vous démerdez.
C'est pas comme ça que ça va se passer, quoi. Donc forcément, le coût de l'énergie va monter, va éliminer toute une partie de la population qui va se retrouver sans énergie, enfin qui sera dans une précarité énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment y penser et dire que c'est maintenant qu'on se met en place, qu'on se met en route et qu'on réfléchit.
Je revendique, est-ce que, en prévoyant ça, est-ce que chacun doit avoir son petit générateur? Du jour au lendemain, il n'y aura plus d'électricité. Ah, mais zut!
Ah, mais c'est vrai, il n'y aura plus de pétrole.
Il n'y aura plus de pétrole.
Oui,
il n'y aura plus de pétrole, quoi.
Oui, je parle d'éolien.
Non, c'est le vélo. Le vélo. La machine à laver.
Ceci dit, ce que disait tout à l'heure Laurent par rapport aux petits éoliens, aux. Et bien évidemment, on ne dit pas, il ne faut pas vous équiper, c'est débile et tout. Vous, pouvez vous équiper, c'est intéressant, comme des situations, des solutions, on va dire, individuelles, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas la solution pour une société qui réfléchit à la question énergétique. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez mettre une éolienne chez vous, des panneaux photovoltaïques chez vous, si vous voulez mettre votre machine à linge à pédale plutôt que d'aller au fitness et tout, tout ça, il faut le faire. Parce que ça fait réfléchir de toute façon la question énergétique, donc il faut le faire. Ceci dit, là, ce n'est pas la solution pour une société qui doit réfléchir à l'énergie.
Si tu pédales sur un vélo pendant 10 heures, tu produis à peu près l'énergie qui est équivalente à 100 millilitres d'essence, de pétrole. T'es mal. Tu peux faire tout tourner ta machine à laver, mais après ça s'arrête assez rapidement déjà pour le faire essorer.
L'intérêt de la machine à laver à pédale, c'est, vous avez pu peut-être voir au chantier d'Utopie, c'est par exemple, moi je vais en faire une pour l'été quand j'ai tous les gamins à la maison. Pourquoi? Parce que les gamins, on leur dit, bon ben voilà, c'est impeccable, vous avez, voilà, ça c'est votre linge de la semaine, ben voilà, t'as le vélo, t'as la machine à laver, tu pédales pour le laver. Et ben je suis sûr que la semaine suivante, quand je vais dire, tu veux pas le garder un peu plus à ton t-shirt, ton machin et tout, parce que sinon tu sais, tu repédales, tu relaves, tu machin et tout. Donc, après, il y a des solutions qui sont des solutions qui sont des solutions pédagogiques. Ça n'a pas un gros intérêt du point de vue énergétique, mais voilà. Après, c'est un intérêt pédagogique. Oui.
Juste pour dire quand même que c'est peut-être aussi un choix en fonction des types d'énergie, l'utilisation que l'on doit en faire. Effectivement. Se chauffer avec de l'énergie électrique, c'est donner de la confiture à des cochons. Ça, c'est le principe même de base, ne jamais se chauffer à l'électricité. Parce qu'effectivement, pour arriver à avoir de l'électricité, il faut toujours passer par, quelque part, une machine thermique. On prend le pétrole, on va dans une centrale thermique au pétrole. La machine qui va permettre de faire tourner l'alternateur est une machine thermique. Celle-là, elle a un rendement qui est maximum, et c'est un savant français qui l'a démontré, qui l'a émis comme principe, et qui n'a jamais été contredit, maximum de 33 ou 34%. Voilà, donc maximum. Ce qui veut dire que l'uranium est capable de nous donner de l'énergie, encore qu'il a fallu sacrément le travailler à partir du caillou qui contenait les sels d'uranium. Mais il est capable de nous donner de l'énergie. Déjà, il y en a 66% qui foulent quand même chaleur. On n'en utilise effectivement que 33%. Là-dessus, il y a derrière obligatoirement un alternateur. L'alternateur, c'est celui qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Lui, il a un rendement, alors là, il est bon, lui, hein. Il a un rendement de 90%. C'est déjà bien. Mais 90% de 33, on tombe à 30%. Et après, cet alternateur, il est quelque part. Il faut la distribuer, cette énergie électrique produite, puisque quand même, une centrale nucléaire, c'est une énorme puissance. Donc, il faut aller l'envoyer dans tous les foyers qui sont dans un rayon de 100 km autour. Bon, mais rien que le fait de transporter cette énergie, on va encore en perdre 20%. Donc, au bout du compte, quand on est parti de l'uranium enrichi, c'est-à-dire tout préparé pour être dans la centrale, on en récupère à peu près 25%. Vous vous rendez compte de toute cette perte pour arriver à avoir de l'électricité chez soi. Et donc, quand on met clic le radiateur électrique en route, on sait très bien qu'il y a eu de la chaleur, alors qu'on lui demande de fournir de la chaleur, qu'il y a eu de la chaleur perdue énormément, puisqu'en fait, ces 25% maximum qu'on récupère vont être transformés en chaleur aussi. Donc, autant se chauffer avec autre chose qui fait de la chaleur immédiatement. Donc, on passe tout de suite au combustible. Mais quand on vous dit combustible, il faut bien savoir que l'essentiel de nos combustibles sont effectivement venant des Émirats, ou de l'Algérie, s'il s'agit du gaz, ou de la Russie, s'il s'agit du gaz. Donc, conclusion, ben, il faut peut-être réfléchir à un combustible que l'on a davantage sous la main, et qui en même temps soit un combustible renouvelable. Donc, c'est toute la filière bois qui serait, bois et déchets des industries du bois, qui serait effectivement à utiliser pour se chauffer, sans compter le solaire. Quand on vous met 5 mètres carrés pour une famille de 4 personnes de capteurs solaires, ça suffit pour l'eau chaude sanitaire. Bon, il faut effectivement un petit supplément quand le soleil ne se montre pas de 2 jours ou de 3 jours. Bon, il faut le penser, ça aussi. Mais quand il s'agirait du chauffage, c'est de la même façon. Quand effectivement on a besoin de se chauffer, eh bien on pourrait penser à une installation de capteurs de chauffe eau pour le chauffage. Mais on pourrait aussi penser en amont à la construction. Pourquoi on a des constructions tellement énergivores? Donc, tout ça, c'est une chaîne de réflexion qu'il faut mettre en route au niveau le plus élémentaire de la population pour qu'un jour, enfin, des politiques se sentent poussés au cul pour dire « Non, le nucléaire, c'est pas ce qu'il nous faut. Le nucléaire produit de l'électricité, mais gardons cette électricité pour ceux qui est vraiment nécessaire. » Alors, vraiment nécessaire, c'est effectivement le mouvement. Quand il s'agit de faire tourner une machine à bois, quand il s'agit de faire un déplacement sur place, quand il s'agit de faire fonctionner de l'électronique Donc, ça, c'est vraiment une utilisation noble. C'est l'énergie la plus noble. Et pourquoi la plus noble? Parce que c'est la plus difficile à produire. Il faut en perdre énormément avant d'en avoir, de cette énergie électrique. Donc, c'est quelque chose qui est absolument à mettre dans la tête de tout le monde. Et c'est ça notre problème. Le mettre dans la tête de tout le monde pour que nos politiques soient effectivement tenues d'y penser à ça. C'est pas qu'ils fassent rien. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un versant, un penchant naturel vers... énergie qui soit effectivement utilisée comme il faut, à l'endroit où il faut, et produite à l'endroit où il faut. Voilà.
Oui, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait pas de transparence volontaire de la part de nos gouvernants par rapport à l'énergie. Quoi. Parce qu'il y a des amalgames, tout le monde se souvient du débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Lorsqu'ils ont parlé d'énergie, où l'un disait le nucléaire c'est 75% de notre énergie, et l'autre, mais non, le nucléaire c'est que 17% de notre énergie. Et en fait, tous ces chiffres-là, le nucléaire c'est 75% de notre énergie électrique, sur une consommation cumulée sur une année, mais si on prend un jour au hasard dans l'année, le nucléaire peut être très bien inférieur à 75% de notre production d'électricité, notamment les mois d'hiver, où il y a des pics de consommation électrique avec le chauffage, surtout vers 19h. Il y en a eu un, tiens, d'ailleurs, le 8 février 2012, où on a eu un pic, où on a dépassé les 101 000 mégawatts. Donc ça fait 100 millions de kilowatts qui ont été consommés à un moment donné. Et là, ben, même avec 75% nucléaire qui produit l'électricité, on ne pouvait pas produire suffisamment d'électricité pour alimenter tout le monde. Donc il a fallu relancer les centrales à fioul, relancer les centrales à gaz.
Et acheter à l'Espagne et à l'Allemagne.
Voilà, et acheter. Et donc la part du nucléaire se retrouve ramenée à 30, 50 ou 60% simplement au lieu de 75%. Et après, il y a un autre chiffre sur le nucléaire aussi, sur l'uranium, on fait un peu l'amalgame entre le nucléaire et l'uranium, où l'uranium, effectivement, représente, c'est 25% de notre consommation d'énergie primaire. Donc on a tous les chiffres, on a 17%, on a 75%, on a 40%, selon l'approche qu'on en fait, on va parler de nucléaire en disant citant ces proportions là quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de justement de clarté voilà, dans la tête des gens. Et s'il n'y a pas de clarté dans la tête des gens, c'est que quelque part il y a une pédagogie qui n'est pas faite, il y a un manque quelque part.
On entend souvent parler à la radio, par exemple, du nucléaire comme une énergie où on est autonome, où on est indépendant, alors que c'est totalement faux. Et d'autant plus que cette énergie, l'uranium, est souvent pris dans des pays, dans d'anciennes colonies, de façon toujours pas très...
D'ailleurs, on se demande bien pourquoi on se bat vraiment pour le Mali. Enfin bon, ça c'est encore... Ouais, je voudrais rebondir sur le 8 février 2012. Moi, ce qui m'avait frappé ce jour-là, parce que je m'en souviens, parce que j'écoute la radio, et en fait, il y avait une tension qui était là depuis la veille. L'EDF a annoncé que demain à 19h, nous allons dépasser. Et après, c'est « Ouais, on a passé les 100 000, ouais, on est trop fort, on est trop bon. » Et on dit, tant qu'on a cette vision avec de l'énergie, on n'est pas bien du tout, quoi. Si chaque fois c'est comme si on dépassait un record et qu'on est encore les meilleurs parce qu'on est capable de passer le record, là c'est qu'on a vraiment, là sur le coup, rien compris. Et là quand j'écoutais la radio, je me suis dit ouais, et ben là c'est pas gagné. Alors ce qui va peut-être nous sauver, parce qu'il y a une note d'espoir, enfin je sais pas si ça va être vraiment une note d'espoir. En fait, la facture énergétique de la France actuellement, c'est 60 milliards de pétrole et de gaz qu'on achète. C'est-à-dire que quand on oublie qu'on est indépendant grâce au centre annulaire, on est peut-être... Allez, considérons que l'uranium, c'est nos copains qui nous le donnent, on ne sait pas, et que donc, du coup, on gagne...
Nos copains bronzés, bien sûr.
Voilà, donc en plus, ils sont là-bas, ils travaillent là-bas, et ils ne t'emmerdent pas ici, donc là, c'est tout bénef. Donc, on a de l'uranium, nos centrales tournent, ceci dit, on a 60 milliards, et quand on parle d'énergie... C'est là qu'on voit bien qu'on se trompe toujours quand on parle que d'électricité. Même nous, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la soirée a beaucoup tourné autour de l'électricité. On paye 60 milliards de gaz et de pétrole tous les ans. 60 milliards, c'est un peu plus de 10% de notre dette. Et ça représente 80% de notre déficit commercial. Donc, on a 80% de déficit commercial rien que parce qu'on ne veut pas se poser la question de l'énergie. Et là, je dis que, indépendamment des gouvernements, indépendamment de leur couleur politique, c'est criminel qu'ils ne se posent pas la question et qu'ils ne veulent pas y répondre. Parce que paradoxalement, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, ça devrait être une de leurs questions fondamentales et centrales. Parce qu'on nous emmerde avec les 35 heures, les machins, les ceci, les ceci, la productivité et tout. Mais on claque 60 milliards tous les ans, rien que pour du pétrole. Plus 60 milliards pour la dette. Je vous dis pas, ça fait 25, on pourrait déjà régler 25%.
Moi, j'ai une petite réflexion, mais de technicien, donc bousquez-vous. Est-ce que dans la méthode de Neumann, il y a une doctrine en fait qui, est-ce que pour moi, j'ai toujours eu un problème à appréhender, on va dire, l'approche globale. Quand je dis ça, c'est valable autant pour les pollutions que les énergies vertes, etc. Comme disait Claude tout à l'heure, on crée un panneau photovoltaïque, il a coûté peut-être un temps à créer, on a détruit des pays pour chercher des matériaux précieux, on a généré la pollution. Le bilan global, pour reprendre ce que tu as dit aussi, les fameuses ampoules qui étaient énergivores, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont une ampoule qui a plus de 100 ans, dans une caserne des pompiers, dans chaque fois. Donc, puis là, je me dis, est-ce que c'est peut-être qu'on a essayé de bouffer des kilowatts? Celle-là qui est bien aussi. Donc voilà. Moi, c'est toujours le bilan global. Est-ce que dans les process de ce que propose la méthode de Neumann, il y a un process qui impose avant de dire on va implanter ça, d'essayer de mesurer au mieux l'impact global pour dire oui, là on aura un rendement à peu près du temps, là c'est pas bon parce qu'on va se faire une bonne action, mais on se retrouve complètement parce qu'il va y avoir ça.
Alors, je réponds à une partie de la question. Le bilan négawatt a un gros avantage, c'est qu'il travaille que sur des technologies connues. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune prospection du point de vue négawatt, c'est-à-dire que tout est chiffré et on est capable de dire par tel secteur qu'est-ce que ça produit comme électricité, comment, quels sont les gains, etc. Bon, il faut aller un peu
dans le bouquin, mais techniquement, c'est quantifié, c'est chiffré. Et de ce point de vue-là, c'est, moi je suis assez d'accord, les trucs globaux qui disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça, ça va. Là, sur le coup, c'est quand même assez précis et avec des technologies qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent. Donc ça, ça a quand même un intérêt. Maintenant, la question de l'effet rebond, ce dont tu parles, c'est effectivement, si on invente une voiture qui consomme que 2 litres aux 100 km, et que tout le monde vend sa vieille bagnole pour acheter une bagnole qui fait 2 litres, on va se retrouver avec le problème de la prime à la casse, où on va reconsommer vachement, on va avoir fait beaucoup de bagnole. C'est un vrai problème, ceci dit, ça.
Pourquoi on ne fait pas ? Oui, pour répondre un petit peu à la question, si j'ai bien compris, le projet Gigawatt, qui est surtout axé dans un premier temps sur une économie d'énergie, sans forcément penser à une alternative au niveau de la production, mais de garder, ben, tout est basé d'abord sur l'économie, quitte à garder même les énergies qu'on a pour l'instant.
Ah ben c'est le paradoxe de Gigawatt, c'est ce que j'essaie d'expliquer, on peut tout à fait prendre en compte le scénario Gigawatt et être pour le nucléaire. C'est-à-dire que le scénario concerne le nucléaire, c'est 17% de la question énergétique, il reste 83%, donc le scénario Gigawatt répond au moins à cette question des 83%.
Oui, on peut dire que le nucléaire fait beaucoup parler, bon, surtout après Fukushima, mais finalement, c'est que 17% de notre consommation globale d'énergie, quoi. Et comme le rappelle très justement Pierre, le scénario Gigawatt, c'est la globalité de l'énergie consommée dans notre pays, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, que dans le tertiaire, l'industriel, l'individuel, etc., etc.
Est-ce qu'on pourrait prendre en compte quand même aussi dans les coûts de fabrication, dans les appareils ménagers, tout ça, sur la longévité de tous ces appareils qui engendrent une perte d'énergie quand on achète une machine à laver qui vaut 7 ans et est obsolète ou un ordinateur ou
dans le scénario Gigawatt, ils en parlent, hein, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, dans le scénario Gigawatt, ils en parlent. C'est un des aspects qui est.
L'économie à ce niveau-là et de combien ? Parce qu'on parle de la consommation directe, mais ces consommations directes sont tout aussi importantes.
Ce qui se passe, il faut bien comprendre que quand on conçoit quelque chose, il y a toujours de l'obsolescence programmée.
Oui,
ça, paradoxalement. C'est-à-dire que quand on conçoit quelque chose, on se dit bon, bah, je conçois quelque chose pour que ça dure 20, 30 ans, et de toute façon, ça ne durera pas. Et rien ne durera éternellement. Donc un technicien, un ingénieur, quand il réfléchit à des produits, il dit, bon allez, je prévois le produit pour 15, 20, 25 ans. Donc, c'est pour ça que je choisis ce matériau-là qui va coûter ça. Maintenant, si je diminue le prix, ça va durer, ça va baisser. Ça, c'est l'irréloquence programmée normale que tout ingénieur, tout technicien se pose. L'obsolescence programmée qui n'est pas normale, c'est dans la puce, on rentre un code qui fait que quand on a fait 2000 impressions, l'imprimante est bonne à acheter. Là, on est quand même dans autre chose et qui est de la malhonnêteté. Enfin, là, on est dans la malhonnêteté. C'est pas éthique. Alors, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais bon, c'est pris dans le scénario Gigawatt, c'est pris en compte.
Oui, justement, le problème tout à l'heure sur les 17%, le nucléaire ne représente que 17% dans notre consommation énergétique. Il va en fait obligatoirement en représenter beaucoup plus, parce qu'il faut prévoir la fin et le démantèlement. Or ça, à l'heure actuelle, ça n'est absolument pas chiffré. Il y avait une centrale qui était pilote dans le démantèlement pour voir justement ce qu'on pouvait faire théoriquement, pratiquement, mais sur les ennuis technologiques pour la démanteler, et c'est la centrale de Brennilis en Bretagne. Et cette centrale, aujourd'hui, ils viennent de dire qu'ils interdisent son démantèlement parce qu'il y a une production de matière qui est encore radioactive à moyen terme et à long terme, et que cette matière qu'on va retirer parce que technologiquement, on essaye d'y arriver à démanteler cette centrale. Mais cette matière-là, on ne sait pas où la mettre. Comme on ne sait pas où la mettre, eh bien, on ne démantèle, on démantèle pas.
Ben on l'a dit il y a 40 ans. Hein. On a le nez dedans. Ben voilà,
le problème, c'est que depuis 40 ans, nous vivons, nous avons eu un certain nombre d'élections et nous avons eu des chambres de députés qui devaient parler de ça et nous n'en avons jamais parlé. Il y a un lobby qui fait qu'on n'en parle pas dans le public de ça.
Ce sujet est tabou, hein, le débat est tabou.
Et d'ailleurs, moi j'ai une proposition à faire, c'est qu'on fasse un référendum sur le nucléaire en France et l'endroit où il y aura le plus de personnes qui sont pour le nucléaire, on leur donne les déchets. Proposition.
On n'a pas parlé tellement de la viande, enfin de l'agriculture, parce que j'ai cru comprendre, je ne connais pas les chiffres, mais je les ai entendus une fois, ça m'a scié complètement, je ne sais pas si vous les avez, mais toute l'énergie dépensée pour produire de la viande, et lorsque j'avais entendu, c'était que si on arrêtait de manger de la viande, si on mangeait plus que de la viande une fois par jour au lieu de deux,
c'est encore un bon consommateur.
C'est un exemple qui était donné, mais si c'est donc, ça va être la consommation moyenne d'un Français. Ça dégageait quelque chose d'énorme. Quoi.
Oui, moi, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, hein, effectivement, mais c'est de l'ordre de 10 fois plus, au moins. La quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire un kilo de protéines animales par rapport à un kilo de protéines végétales, c'est
7 fois plus.
Voilà. Donc, 7 fois plus. Donc c'est vrai que si on consomme 7 fois moins de viande déjà, c'est-à-dire une fois par semaine, on arriverait déjà à baisser considérablement nos consommations d'énergie, les gaz à effet de serre par le méthane que produit le bétail, etc. etc.
Non, justement, on va en parler, on va prendre la question et on en parlera.
C'est juste pour amener un élément qui a été reconnu approximativement correct, on va dire. C'est qu'en gros, le bovin, la viande, elle va consommer deux fois plus que du cochon. Et le poulet, et le cochon lui-même, à chaque fois on divise par deux, le cochon lui, va coûter deux fois plus le kilo rendu, hein, on est d'accord, que tout ce qui relève. Voilà. Dans le choix des
gens. Oui, alors. Effectivement, le scénario négawatt lié au scénario after réfléchit à la question de l'alimentation. Parce que, effectivement, l'une des pistes qui est proposée, c'est de consommer moins de viande. Alors, d'abord, parce que les bovins produisent énormément de graisse, hein, de gaz à effet de serre. Donc là, c'est pas terrible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour produire de l'énergie, il va falloir libérer des terres. C'est-à-dire que dans le cadre de la méthanisation, une partie des terres est utilisée pour fabriquer du méthane. Et on va méthaniser, par exemple, des trèfles, on va méthaniser... et c'est impossible de faire les deux en même temps. Donc si on veut produire de l'énergie avec des terres agricoles, on doit produire moins de viande. En sachant qu'on est passé d'une consommation en 30 ans, je crois qu'on est passé de 40 kg de viande à 100 kg de viande par personne. En 30 ans. Peut-être que ça rebaisse. Peut-être que ça baisse mais ça baisse depuis peu. Et de toute façon, au niveau mondial, au niveau mondial, c'est.
Oui.
Alors, le biocarburant, il y a deux systèmes de biocarburant. Alors, on va dire trois. Il y a la méthanisation, les diesters et l'huile pour tracteur. Ça, c'est trois choses différentes. La méthanisation, c'est ce qui est préconisé par le scénario négawatt et pour lequel il faut libérer des terres pour produire du méthane. Le méthane, ça permet de faire... gaz, enfin, le méthane c'est du gaz, ça permet et de faire de la chaleur et de l'électricité sur des petites l'intérêt, ça peut, on peut permettre, on peut mailler le territoire avec ce, ce système-là. Voilà, ça, c'est préconisé par le Sénat Ménégamat. Après, il y a l'huile de tracteur. Or, l'huile, les tracteurs, c'est en fait, plutôt que de mettre du diesel dans le tracteur, vous mettez de l'huile. Et l'huile, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être faite sur la ferme. C'est-à-dire que en mettant du tournesol, etc., on peut presser les graines de tournesol, faire de l'huile qu'on met dans le tracteur, et les tourteaux de tournesol peuvent être consommés par le bétail. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Alors, c'est intéressant si ça reste sur la ferme. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de transformer toutes les surfaces agricoles pour mettre de l'huile dans tous nos diesels et continuer à tourner au diesel. On est bien d'accord, c'est pour permettre à l'agriculteur d'avoir une autonomie et en protéines et en énergie. Parce que de toute façon, les protéines, ils les font venir. Il faut savoir qu'il y a plus de surfaces agricoles utilisées par la France dans le monde que de surfaces en France. C'est-à-dire que toutes les protéines, c'est supérieur à la surface de la France pour produire les protéines qu'on utilise. Donc ça, c'est un moyen de mettre à peu près 5% des terres pour faire tourner, pour mettre l'énergie sur la ferme. À savoir que si on avait un cheval, il faudrait de toute façon avoir les terres pour nourrir le cheval, etc. Donc
il faut élever les mouches.
Voilà, par exemple. Bon, voilà, ça c'est après les fameux agrocarburants qui d'ailleurs ont fait beaucoup de tort à l'huile, parce que justement il y a eu un amalgame entre l'huile et les agrocarburants. Les agrocarburants, ça c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que en fait, ça demande des procédés de raffinage, de rajout de pétrole, enfin, etc., qui font que ça ne devient pas du tout rentable. On retombe dans le système d'avoir un gros fournisseur d'énergie qui revend aux agriculteurs pour lesquels ils doivent racheter, etc., ce qui n'est pas du tout le principe de l'huile, qui est le principe de l'autonomie. Donc, nous, on est plutôt contre, et le Sénat Ménégamat est contre les diesters.
C'est un contexte, c'est pas des cultures écologiques, au contraire.
Voilà, oui, parce que là pour le coup.
Il y a beaucoup d'intrants.
Dans le scénario mégawatt, la méthanisation représente combien en pourcentage de terre environ ?
Il faut que je reprenne le bouton, je ne sais pas. En pourcentage de terre,
je ne sais pas s'ils le disent précisément.
Je vais chercher.
Oui ? Non ? Elle était derrière la forme, mais je ne sais pas, tu as vu peut-être le diabar. Il avait le diabar, allez, vas-y.
Non, je suis précis, il parlait de protéines, tu me dis que les agriculteurs français achètent les protéines à l'extérieur.
Ouais.
Et est-ce que dans un scénario plus intelligent, on pourrait rêver que les agriculteurs français produisent leurs protéines ?
Mais c'est ça, ouais.
Non, mais est-ce que c'est impossible qu'on ait assez de terrain pour produire ? Est-ce qu'on veut dire du Porto, je ne sais pas, du Brésil, ou ouais. Pour moyen de faire notre agriculture pour.
Ça rejoint ma question sur les pourcentages.
Non, même.
Ouais.
Si on a passé déjà du terrain pour produire nos protéines, est-ce que le fait de méthaniser, de consacrer des terrains à ça, ça va être une solution viable ?
Non, mais c'est qu'on a trop de bêtes à l'hectare. On a pas assez de terrain pour nourrir nos bêtes. On est déficitaire. On a les agriculteurs sont trop chargés en bétail.
Il faut réduire le cheptel.
Une vache à l'hectare, maintenant c'est une et demie. Du tourteau, on achète du soja, on achète à l'extérieur parce que on
a pas assez de terre pour nous. Le seul moyen de réduire ça, c'est de réduire le cheptel.
Il faut revenir à
une bête à consommer,
plus de bête à.
C'est possible qu'au départ, j'ai sacré quelque chose, mais le méthane, c'est quand même un gaz d'effet de serre, beaucoup plus dangereux que le carbone.
Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant de le brûler.
Voilà, il est moins dangereux s'il est consommé. Enfin, il est beaucoup plus, il a un effet beaucoup plus marqué de CO2 par rapport à l'effet de serre s'il est libéré tel quel dans l'atmosphère. S'il est consommé, il est décomposé en hydrogène, oxygène, carbone, CO2.
CO2,
mais
bon.
CO2
est fixé dans la végétation, donc c'est du renouvelable. Oui. C'est pas du CO2 c'est qui a été enterré d'abord dans les temps préhistoriques.
C'est pas du stock, c'est du
voilà. C'est pas du stock, c'est le soleil tous les jours, quoi.
C'est-à-dire que le principe, c'est plutôt que de laisser le méthane s'échapper, on met une cloche dessus, on récupère, on brûle. Et ça fait moins d'effet de gaz à effet de serre.
C'est le même principe d'ailleurs pour le bois, puisqu'on va dire que si on se chauffe au bois, mais oui, mais on va produire du CO2. Et c'est, comme le bois a déjà stocké le CO2, en fait, on le restitue, on le remet dans le circuit et il va être à nouveau stocké par le prochain bois qui est en train de pousser pour remplacer celui qu'on a consommé.
Le prochain bois qui est en train de pousser. Il est bien d'accord que si on rase les forêts au Brésil et qu'on ne plante rien du tout, c'est du CO2 qui est reparti dans l'atmosphère, qui n'est pas renouvelable, là, pour le coup.
Et en Allemagne, ils en sont où par rapport aux méthanisations au niveau agriculture? Parce que, quand même, quel est l'usage qui s'en fait principalement? Parce qu'ils sont plus organisés que nous, ils ont déjà des unités communes, des cumas qu'on a fait chez nous, quoi.
Ouais, alors la méthanisation en Allemagne. Alors la méthanisation. C'est bien, mais ça peut faire aussi n'importe quoi. C'est-à-dire que le problème de la méthanisation, donc on peut méthaniser du lisier, du fumier, du maïs, etc. Des ordures et tout. Et on est arrivé, par exemple, au Luxembourg, j'avais visité une usine de méthanisation. Donc ils avaient fait ça pour contourner la loi sur les friches. C'est-à-dire qu'ils avaient mis du maïs qu'ils mettaient dans le méthaniseur, parce que comme ça... Ils utilisaient leurs terres et donc ils gagnaient de l'argent avec leurs terres, etc. Mais il est arrivé que le cours du maïs de Pologne était moins cher que le cours du maïs local. Donc du coup, ils avaient cherché des camions de maïs en Pologne pour les amener dans les méthaniseurs. Il est bien évident que si c'est pour faire ça, on dit stop de suite, quoi. Hein, ça, c'est un vrai problème de la méthanisation. Sinon, après, c'est vrai que tous les pays nordiques et alors le Luxembourg, ils sont autonomes de ce point de vue-là avec les méthaniseurs. Et ça fonctionne. Et alors là, pour le coup, c'est une technologie qui est... L'intérêt, c'est que ce sont tous des technologies super simples.
Tu peux méthaniser quoi comme matériau
Tout vivant.
Tout ce qui est fermentescible.
Sauf le bois. Le bois, ça n'a pas de... Mais le lisier, le fumier, les algues vertes, les restes d'écarissage. Un paradoxe, c'est par exemple au Luxembourg, au début, on leur donnait de l'argent pour traiter les déchets. C'est-à-dire que les communes payaient pour qu'on leur amène leurs déchets verts. Alors, ils étaient contents, ils produisaient des gaz et en plus on les payait pour le faire. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, comme il y a eu beaucoup de méthaniseurs, ils ont été obligés d'acheter les déchets verts pour faire tourner les méthaniseurs. Donc après, il est clair que de toute façon, si on veut que ça marche pas, on peut trouver les moyens que ça marche. Enfin, on peut faire que ça marche pas. Et le problème de la méthanisation, c'est ça. C'est-à-dire que si on met des intrants de tous les côtés pour faire de la biomasse et puis balancer la biomasse dans le méthaniseur, on revient dans un truc qui ne marche pas. C'est clair.
Oui, et puis il y a tous les déchets ménagers. Quand les gens ne font pas de compost, de la matière organique, qui sont aussi une source de production de méthane, comme ça s'est fait dans le Tarn avec, je sais plus, Trifit, si c'est au séquestre, où on a construit... Enfin, en creusant dans le sol, ils ont construit d'immenses réservoirs qui sont des digesteurs, en fait, dans lesquels il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de matières fermentescibles qui sont stockées. Une fois que c'est plein, on referme, et c'est un processus qui va se dérouler sur 20 ans, où la fermentation va commencer. Il faut un certain temps pour que le taux de méthane devienne exploitable, mais une fois que la production est vraiment amorcée, ça va fonctionner pendant 15-20 ans.
Ah bon? On va avoir... Sur réservoir?
Voilà, oui. C'est long. Le même réservoir.
Il y a des cheminées. Oui. Il y a des lance-flammes toute la journée qui brûlent.
Oui.
Dans l'espace. Hein. Des grandes cheminées avec des flammes de et qui brûlent tout le temps, hein. Qui dégazent le site en permanence.
Oui, ça répond à la question qui est le méthane, pourquoi le méthane? C'est parce qu'en fait le méthane est produit et il part dans l'atmosphère. À savoir aussi que l'intérêt dans la méthanisation à la ferme, c'est que ce qu'on appelle le digesta, qui est le produit qui reste dans les cuves et qu'il faut bien retirer, à un moment il faut bien retirer ce qu'il y a dans les cuves, c'est quelque chose qui est très intéressant à mettre sur les terres, parce que apparemment l'azote, excusez-moi, c'est les agriculteurs là, sur le coup, ils connaissent mieux les questions NPK, etc. que moi là, mais l'azote qui est sorti du digesta est beaucoup plus assimilable que l'azote produit par les engrais. Les engrais de la chimie. Mais là-dessus, la moindre question technique, je serais incapable de vous répondre.
Une question pour Laurent, à Tréville, est-ce qu'il y a des lixiliers à la fin qui restent, qui peuvent exploiter, ou est-ce qu'ils exploitent déjà les lixiliers?
Je ne sais pas, je ne suis pas assez pointu là-dessus pour pouvoir répondre à ça.
Parce que ça rejoint quand même ça.
Mais d'ailleurs, Canopé va certainement organiser une visite à Trifil, un de ces jours.
Par contre, on ne connaît pas, mais quand même, le comporteur a certainement de faire sur la route. Hein.
Oui.
Ah, parce que moi, je me vois pour le tri sélectif, alors. J'avais du coup, je suis comme il est convaincu. Là,
ben, ce que je disais, on regarde, on fait son bilan carbone, on regarde sa facture d'électricité. Mais c'est ce que j'ai expliqué, c'est ça, mais c'est symbolique. C'est tout ce qu'on peut faire. Je suis désolé, hein, je ne peux pas. J'ai pas d'autre solution à l'instant T, là, ce soir. J'ai pas d'autre solution à proposer. Faire des conférences, c'est-à-dire que vous pouvez tous venir adhérer à Canopé, vous former sur l'énergie et diffuser la bonne information partout dans l'Aveyron, puis après l'Aveyron partout dans la France, mais après partout le...
Ceci dit, tout le monde peut saisir les élus pour leur demander de mettre en place des lignes de bus régulières entre, peut-être pas le domicile, mais au moins qu'il y ait des lignes de bus plus régulières dans... sur les trajets les plus utilisés par les gens et aux heures où les gens les utilisent plus. Si chacun appelle son député en lui disant « mais moi je râle parce que j'ai pas de ligne de bus », je veux dire, à force il y aura la pression et ça risque de bouger un peu, quoi.
Ici sur le volant on a une voie ferrée qui demanderait qu'à ça puisse servir.
Pour laquelle il y a eu un investissement énorme de la part du conseil régional, c'est-à-dire quand même aussi de nos impôts. Il n'y a pas que le conseil général qui nous applique. Donc cette voie ferrée est à l'heure actuelle sous-exploitée dans le sens où elle a des véhicules qui circulent, mais peut-être pas assez bien fréquentés, avec une promotion du transport par rail. Il y a des départements, mais qui l'ont fait avec des bus, et qui ne l'ont pas fait avec les TER. Il y a des départements qui ont donné la gratuité ou bien l'euro symbolique pour tout trajet. Donc le Gard a fait ça.
Le Morbihan aussi.
Donc il y a des départements qui ont décidé de faire ça pour avoir une fréquentation plus importante de transport collectif. Alors, est-ce qu'il est mieux de les prendre collectif sur rail ou collectif sur la route? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a des routes qui sont assez denses, l'axe, et qui est parallèle à la voie ferrée, l'ancien axe dont on parlait, la 140, qui est devenue 840. Elle est à l'heure actuelle une source de dépenses pour le conseil général, pour en arriver à la moderniser, entre guillemets, s'il y en a vraiment toujours besoin. Et parallèlement à ça, la région qui a investi beaucoup dans la voie ferrée, qui est parallèle, globalement, pour aller de Figeac à Rodez, qui est le bassin d'emploi assez lié, ben, les transports liés à l'emploi pourraient se faire aussi bien par la voie ferrée que par la route. Bon, est-ce que ça, c'est poussé en avant? On pourrait demander, donc nous, à notre niveau, pousser pour que ça se fasse. Alors que, bon, c'est vrai que c'est une décision personnelle que de ne pas prendre sa voiture, mais de prendre le
transport informel.
Je crois qu'il y a un protocole. Il faut suivre aussi un protocole par rapport aux élus. C'est-à-dire qu'il faut, faut être investi dans la vie de la cité, réellement. Là, pour le coup, faire de la politique. Nous devons faire de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire le lien entre les citoyens, parce que c'est ça à l'origine. Et faire la politique, c'est quand on voit qu'un élu se pose des questions sur le renouvellement de la chaufferie, sur l'école, etc., être là et lui proposer des solutions, en espérant qu'il suive nos recommandations. Mais je pense, par exemple, au niveau de Canopé, on a été présent dans les réflexions par rapport à la chaufferie à Combarel. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a essayé de défendre la filière biomasse, bois, pour faire les réseaux de chaleur à Combarel. Quand vous, dans votre commune, vous entendez qu'il y a un projet, vous pouvez essayer de voir ce côté-là, essayer de voir du côté énergétique. Après, si vous êtes dans des associations, vous pouvez peut-être aussi essayer d'être dans des... Par exemple, bon, nous, on est dans les programmes leaders de subventions européennes. Je ne dis pas qu'on change le monde ou quoi que ce soit. Mais quand un type dit, ben voilà, on a voté une subvention pour mettre un spot sur le bâtiment, typiquement, ben vous pouvez déjà être là en disant, oui, on l'arrête à 11h. C'est pas grand-chose, mais ça fait rentrer dans les mentalités. La fois dernière, au programme leader aussi, le gîte des stars, on va faire un gîte 3 étoiles, enfin 3 épis, etc. Je leur dis, attendez, vous avez des marcheurs, vous faites 2 épis, et 2 épis, c'est le maximum que doit avoir un gîte. Alors c'est pas grand, je dis pas que ça révolutionne le monde et quoi que ce soit, mais quand les citoyens sont là et qu'ils viennent avec des idées, des propositions, bon, les élus, vous savez, ils sont contents aussi qu'il y ait des forces de proposition. Mais il faut les rencontrer, il faut les voir, il faut...
Vous avez déjà eu l'occasion de faire des réunions par rapport à un partenariat avec l'ADME, l'association des maires. Est-ce que en fait, l'ADME propose souvent des thématiques la semaine dernière, il y avait sur le foncier, par exemple, hein, donc les pilotages fonciers. Donc, est-ce que ce genre de choses, entre parenthèses, est-ce que vous êtes accepté et est-ce que c'est possible pour des personnes comme vous d'y être et justement d'un foncier de fond?
Nous, on va partout où on nous invite et on est. On était à la fête de la science, à la soute, on était dans le cadre, l'agriculture à la loupe, on essaie de se glisser partout en disant vous voulez bien de nous, on vous raconte un petit truc sympa, donc on y va. Après, l'association des maires, on avait travaillé avec eux et pour ce fameux questionnaire où on avait récupéré toutes les pratiques, les bonnes pratiques qui étaient faites en Aveyron par tous les maires, et l'association des maires avait fait relais, parce que je pense les élus ils se posent aussi des questions, enfin je veux dire, c'est souvent des citoyens qui pour le coup sont vraiment impliqués et s'impliquent dans la vie de la cité, et du coup ils sont aussi à l'écoute, ils veulent savoir, mais en même temps il y a des choses qui sont folles. Il y avait le maire de Florentin-Lacapelle qui descend à la réunion. Il dit, je viens voir, parce que vous parlez de la phytoépuration pour les communes. Et il y avait le maire de la commune à côté qui est venu, parce que lui avait fait une phytoépuration. Ils se sont rencontrés à une réunion organisée par Canopé, alors qu'ils habitent les deux communes, les unes à côté des autres. Et là, on dit... Il y a quand même un problème au niveau... Je pense qu'au niveau de l'association des maires, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais l'information, il faut vraiment la faire...
En fait, elle est diffusée, il y a une newsletter qui diffuse toutes les formations qu'ils peuvent proposer. Après, sur le choix des formations retenues et tout, je ne sais pas exactement comment ça marche. Mm-hmm. À mon avis, c'est vraiment une force de pouvoir être dans ce type d'association pour sensibiliser les élus. Sincèrement, parce que par habitude, les gens, ils y vont, dès qu'il y a un thème un peu nouveau sur lequel ils veulent se mettre au point, ils y vont. Quoi. Mm-hmm.
Et au Pays Rutinois, il y a un Michael, là, c'est un économe de flux qui va dans toute la journée, il écume les communes aveyronnaises pour leur proposer des solutions pour faire des économies d'énergie, et il les aide à monter les dossiers de financement.
Oui, le problème, c'est qu'il ne peut pas faire toutes les communes. Il y a aussi le CIDA qui est un peu...
Il dit que parfois, des fois, il le jette, mais des fois, il est bien accueilli. Et, beaucoup de maires qui sont sensibles à toutes ces questions-là quand même.
façon, ce qui va nous sauver aussi, c'est la crise. Quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va falloir gagner du pognon, de toute façon, on va aller chercher, on va commencer à gratter les fonds tiroirs. C'est-à-dire que tant qu'il y en avait, on ne se préoccupait pas. Maintenant, ça commence à serrer un peu, donc on va faire attention. Et je pense que les maires sont... juste Michael, pour revenir sur Michael, qui est économe de flux, il est fait partie de Canopé. On a des mails fréquents, il nous envoie des mails fréquents avec des informations dont on profite. Il faut savoir quand même qu'il y a deux postes d'économe de flux et que les deux postes d'économe de flux sont payés par les économies. C'est-à-dire qu'en fait, ils réussissent à gagner de l'argent. Ils ont créé deux emplois plutôt que de brûler de l'énergie. Enfin, là, en fait, on a eu un transfert d'énergie. C'est-à-dire, l'énergie gâchée est allée vers deux emplois. Bon, comme quoi, ça marche.
Et autre chose,
Je
voulais savoir si la remunicipalisation aussi, ça peut aider à faire des économies d'énergie. Je pense en particulier l'éclairage public. La ville de Neuchâtel a remunicipalisé parce qu'elle avait confié ça à une entreprise privée. Et donc, il y avait des dépenses en éclairage public énormes. Et le fait de remunicipaliser, du coup, c'est la mairie qui maîtrise ses consommations d'énergie. Du coup, elle a installé des horloges. Le truc que tu disais, là, qui fait que la lumière s'éteint dès qu'il commence à faire jour. Du coup, on consomme beaucoup moins sur la commune. Et aussi le choix de la manière de changer les ampoules, le choix des ampoules et le rythme auquel on change les ampoules fait que tout ça, ça influe sur la consommation. Et du coup, on s'est rendu compte au bout du compte que ça coûte un quart de moins que quand c'était privé, déjà rien qu'au niveau des frais. Et en consommation, ça a réduit aussi de 20% la consommation électrique. Sur une grosse commune, c'est important quand même. Donc quand on dit que ça coûte moins cher de confier au privé et de privatiser les services, c'est pas vrai. C'est moins cher de remunicipaliser.
C'est valable pour presque toutes les délégations de services publics, notamment pour l'eau. C'est la même chose.
L'eau, l'assainissement, les stations, ils sont là pour faire du pognon. Si tu repars au bout de tes 5 contrats finis, il y a tout à changer, c'est ruiné, c'est qui va payer, c'est la collectivité.
Non mais là c'est intéressant parce que pendant 15 ou 20 ans on a eu le discours, il n'y a vraiment que le privé qui était capable de faire des choses bien parce que le public ça se termine tout de suite, on se retrouve tous en trabant, etc.
Comme ça là, c'est vrai que c'est génial. Espagnol, ils sont en régie aussi pour une grosse station sur laquelle ils investissent, après une grosse station là-bas. Elle est vraiment hyper bien gérée, c'est pas mieux quoi. Ils ont fait du montage financier pour comparer les solutions. Soit la confier à Prestar, soit la faire en régie. Et aujourd'hui, les retours sont super bien. Quoi. C'est un même ordre. On s'aperçoit qu'en voulant sortir le tour par les ça donne des résultats. C'est pour ça, souvent, jeudi en question, on se retrouve avec des gens convaincus, déjà entre nous. On a toujours été comme des questions, mais en étant assez plus convaincus. Je pense que déjà, il faut qu'ils viennent dans les conseils municipaux. Il faut se mettre sur la liste. Il faut y aller.
Ah oui, absolument. Je partage totalement cette vision des choses. Mais au niveau de Canopé, la fois dernière, on a fait une réunion à la soute dans le cadre de l'agriculture à la loupe. On avait que les agriculteurs nord Aveyron avec des élus locaux. C'était pas du tout un public conquis. Et je peux vous dire que pourtant, ils ont vraiment participé, écouté, ils n'étaient pas du tout ni moqueurs, ni quoi que ce soit, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui pensent que la question énergétique va devenir un problème. Sur les exploitations, ils ne sont pas fous, hein, ils voient bien le coût énergétique de leur mode de production. Et ils aimeraient. S'il y a quelqu'un qui peut leur proposer quelque chose, au moins maintenant ils l'écoutent. Ce qui n'était pas le cas, il y a ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
Est-ce qu'on a épuisé le sujet ? Alors, jamais épuisé, mais par contre, ce qu'on se proposait de faire dans le cadre des jeudis en question, s'il y avait d'autres thèmes connexes à l'énergie, que vous auriez voulu qu'on développe. Donc là, on s'est quand même bien assez concentré sur les économies d'énergie, sur les solutions alternatives dans le cadre du processus négawatt. Mais il y a bien sûr d'autres façons aussi d'avoir une approche de l'énergie, entre autres les bilans énergétiques mondiaux, savoir un peu donc le côté géopolitique, je veux dire aussi. Il y a d'autres.